Non, c'est pas important, là. Ce qui est important, c'est d'être en famille. C'est quoi la vraie raison de Noël? Les gens cherchent une défaite pour fêter Noël, finalement. Alors qu'à l'origine, on a la signification de cette fête-là. Donc, cette semaine, je voudrais qu'on commence. Bon, on va continuer dans notre série. Puis je voudrais qu'on commence à rêver un petit peu ensemble, comme Église, par rapport à toutes les opportunités qui s'offrent à nous dans le royaume de Dieu, à travers de notre assemblée, à travers de l'Église locale. On va évidemment se servir de l'illustration qu'on avait ici, j'ai remis en avant, de l'Église. En passant, ce n'est pas juste des idées qui ont été, quand on a pensé l'Église, mais c'est tout basé sur des versets bibliques. Fait que chaque pilier, chaque élément de ce dessin-là a un fondement biblique. Donc, entre autres, on va regarder les piliers, mais dans les Actes, il disait qu'il persévérait dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, et tout ça, c'est des choses qui ont été mis à cause des versets comme ceux-là. Donc, déjà, on a regardé ensemble au niveau de l'autorité gouvernementale, les anciens, il y a quelque temps aussi. Mais cette semaine, j'aimerais ça qu'on se concentre premièrement sur la base du service dans l'Église, qui est l'adoration. Donc, on voit l'adoration qui est ici. Hein, c'est les piliers du service dans l'Église qui est notre adoration. Et on va aussi prendre le temps ce matin de commencer un premier pilier. On va regarder le pilier de la prière ensemble. Okay, donc, on va progresser un petit peu dans ce texte-là. Mais avant, j'ai quelques images pour vous qui vont aller un petit peu dans le contexte justement de notre thème de ce matin. Hein? Il dit, chez vous aussi, vous dites la prière avant de manger? Donc, le jeune garçon dit, « Non, ma mère sait bien cuisiner. » Je trouvais comique. Ça va quand même bien. Hein? Donc, le petit moine qui reçoit un petit cadeau du moineau qui vient de passer au-dessus, là, puis qui est sa première réaction, hein, c'est « Louis, sois-tu mon Dieu de ce que tu n'as pas donné d'aile aux vaches? » Donc, toujours être branché sur le Seigneur. La troisième, je la trouvais juste cute. C'est une image qu'on a vue quelques fois, mais que je trouve cute. Un petit garçon qui fait sa prière, puis le chien qui est à côté de lui. Donc, intéressant. Donc, cette semaine, on va retourner ensemble. On va relire les versets 6 à 8 de Romains 12. Tournez dans vos Bibles. Romains 12, on va relire les versets 6 à 8 ensemble. Donc, Paul nous dit, Romains 12, 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce avec selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » On voit donc que Paul ici aborde le thème du service, mais plus pour nous montrer l'attitude dans laquelle on doit pratiquer le service dans l'Église. Mais c'est pour ça que je me suis dit que cette semaine, ça sera bon, étant donné qu'on parle du service, de rentrer dans ce sujet-là pour les prochains mois, puis vraiment regarder, c'est quoi le service dans l'Église? Quels sont les divers domaines? Il en parle déjà de plusieurs ici, mais je pense que ce sera bon, puis comme on l'a dit, ce n'est pas des listes exhaustives, ce n'est pas tous les thèmes qui sont là, mais qu'on prenne le temps vraiment de s'arrêter. Donc, on va utiliser plus notre texte comme prétexte ce matin et dans les prochains mois, et on va rentrer comme il faut c'est quoi l'idée du service dans l'Église? On a déjà parlé des dons spirituels, okay, tout le contexte, maintenant le service. Donc avant de faire ça, on va prier. Eh bien oui, notre bon Papa du ciel, premièrement, on veut te remercier pour l'Évangile. Merci de ce qu'un jour tu t'es fait petit enfant. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, pour nous sauver. Merci de ce qu'un jour tu t'es révélé à chacun d'entre nous. De ce qu'aujourd'hui on peut être appelé tes enfants. Quel privilège, comme mon frère le disait tout à l'heure, d'être les enfants de Dieu. Et Seigneur, certainement, suite à ça, on veut répondre, Seigneur, à cette manifestation que ton esprit a eue en nous. Et je te prie, Seigneur, que l'étude de ce matin puisse nous éclairer de quelle façon on peut répondre à tant d'amour que tu as déversé pour nous à la croix. Seigneur, je te prie de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Et certainement, utilise ma bouche. J'ai besoin que toi, Seigneur, tu parles à ma place, que tu utilises ma bouche simplement comme un outil, Seigneur, pour nous amener à comprendre toute la richesse de ta parole et d'un thème si important que celui qu'on va voir ce matin. Et c'est en Jésus que je vais te prier. Amen. Donc, premièrement, je veux juste qu'on regarde le contexte du service ensemble. Mais il s'agit plutôt de notre réponse à l'Évangile. Comme on l'a vu, les versets 1 à 11, Paul nous présente l'Évangile, et là, à partir de 12, il nous montre comment un enfant de Dieu devrait normalement répondre à cet Évangile. Or, à chaque fois que nous voyons Dieu se manifester dans la parole de Dieu, nous voyons une forme de réponse quelconque à cette manifestation. Donc, Dieu se manifeste, et les êtres humains à qui s'est manifesté répondent d'une certaine façon, et c'est leur forme d'adoration. Et c'est la même chose. Dieu s'est révélé à nous quand il nous a ouvert les yeux, qui a allumé les lumières par rapport à l'Évangile, et notre réponse, on va regarder ce matin, quelle est notre forme de réponse. Mais j'aimerais qu'on regarde quelques exemples, premièrement, dans les Écritures, d'hommes, de femmes, qui ont eu une manifestation de Dieu, comment ils ont réagi. Donc, on voit premièrement qu'Abraham, avant que son nom soit changé pour Abraham, lorsque Dieu s'est manifesté à lui, à deux reprises, donc dans Genèse 12, versets 7 et 8, il a bâti deux autels à Dieu, et on voit à la fin du verset 8, « et il invoqua le nom de l'Éternel ». Donc, la façon qu'Abraham a réagi à la manifestation de Dieu, ça a été de bâtir des autels, et d'invoquer le nom de Dieu. On voit un petit peu plus tard, pour Manoah et sa femme, lorsque Dieu s'est manifesté à eux, ils sont tombés face contre terre. Donc, c'est la forme d'adoration que eux, la façon qu'ils ont réagi, sont tombés face contre terre, une façon d'adorer Dieu. Si on vient dans le Nouveau Testament, on arrive dans le contexte où Paul a une manifestation de Dieu. Vu qu'il est tombé face contre terre, pas qu'il est face contre terre, il est tombé par terre, on s'imagine que c'est face contre terre, quand Jésus lui-même lui est apparu sur le chemin de Damas. C'est ça? OK. Mais on voit dans Acte 9, verset 6, il était tremblant et saisi d'effroi. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » La réaction de Paul a été finalement de s'offrir lui-même, de se rendre disponible à celui qui avait persécuté toute sa vie et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le, je vais le faire. » C'était sa façon de répondre, d'adorer Dieu en réponse à cette manifestation-là. Et finalement, dans notre texte de Romains 12, 1, on voit que Paul nous présente la façon que lui-même adorait Dieu. Et il nous dit que la façon normale d'un enfant de Dieu de répondre, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est là qu'il dit à la fin de ce verset-là que pour nous, ça va être un culte raisonnable. Donc, une façon raisonnable d'adorer Dieu dans ce nouvel air dans lequel nous vivons présentement. Donc, comme on le dit, quand Dieu se manifeste à une personne, la réaction va être une forme d'adoration. Et le texte de Romains nous dit finalement, dans le Nouveau Testament, ce nouvel ère dans lequel on est, la seule réponse valable, désormais, c'est d'offrir nos corps en sacrifice pour notre Dieu. Mais ce n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. Pourquoi que ça l'a changé? Pourquoi est-ce que maintenant, ce n'est plus la même façon que ce qu'Abraham, par exemple, avait fait? Eh bien, si on voit ça, un texte que j'aime particulièrement, c'est dans Jean chapitre 4. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a eu cet entretien, et qui est quand même très volumineux dans l'Évangile de Jean, avec la femme samaritaine. Mais là, Jésus a révélé à la femme samaritaine la nouvelle forme d'adoration qu'il venait d'instaurer depuis son incarnation. Parce que Jésus est venu sur cette terre, il est venu jusqu'à nous. Maintenant, ce n'est plus avec des sacrifices qu'on faisait au temple, qu'on adore Dieu. Mais maintenant, la forme vient de changer complètement. Donc, on voit au verset 23 de Jean 4, il dit, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, si avant c'était dans un lieu précis et en offrant des sacrifices qu'on pouvait adorer Dieu, maintenant, ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, c'est la façon que nous allons offrir nos corps comme des sacrifices vivants pour Dieu. C'est ça maintenant, la nouvelle forme d'adoration. On parle de la fin des temps. Hein? On est dans les temps de la fin, mais qui commence à la naissance de Jésus, finalement. À la fin des temps ou à la croix, là, mais à la venue de Jésus sur terre, là, on est dans la fin des temps depuis ce moment-là. Mais dans l'ère de la fin des temps, eh bien, c'est la nouvelle façon, c'est d'offrir nos corps en sacrifice. Donc, tous les piliers qu'on voit ici, comme on l'a dit, sont des formes d'adoration. Donc, la louange, la prière, la fraction du pain, tous ces piliers-là sont des formes d'adoration à laquelle on est appelé à participer, mais à tous. On doit participer à toutes ces formes d'adoration-là comme enfant de Dieu. On ne peut pas dire, non, moi, la prière, c'est pas pour moi. Non, la louange, c'est pas pour moi. Hein, ce qu'on a fait ce matin, on a chanté. C'est une forme de louange. Tous les enfants de Dieu sont appelés à louer Dieu de cette façon-là. La prière qu'on va voir ce matin, mais chacun des piliers, on est appelé à avoir à pratiquer cette forme d'adoration-là. Mais en plus, comme on l'a vu, à cause des dons, la façon que Dieu nous a équipés, on va avoir un rôle particulier à jouer dans l'un de ces piliers-là pour aider les frères et sœurs à adorer de cette façon-là. C'est la façon qu'on va mettre nos dons au service du corps de Christ pour l'édification commune. Donc, on doit pratiquer chacun de ces piliers-là, mais en plus, on va avoir une implication particulière dans l'un d'eux à cause de nos dons, à cause de l'appel que Dieu nous a adressé. Là, j'entends déjà certains dire, « Ben voyons donc, Jacques, es-tu tombé sur la tête? J'ai jamais le temps de faire toutes ces affaires-là dans ma vie, en plus de mon horaire, je suis déjà là, je n'ai pas le temps de faire tout ça. » Eh bien, c'est pour ça que le texte de Romains, le contexte de ce qu'on regarde, ça nous dit que ça doit passer par le renouvellement de l'intelligence. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, sinon c'est impossible, c'est impensable de continuer à suivre le train de ce monde, le siècle présent qui nous dicte la façon qu'on devrait vivre, et de pouvoir vivre cette forme d'adoration-là à laquelle on est tous appelés, qu'on est tous appelés à vivre. Eh bien, ça va certainement demander, puis on est en début d'année, donc on rajoute nos beaux calendriers, nos beaux agendas. J'aime bien l'avoir sur mon bureau, c'est plus facile, mais là, on va changer d'agenda. Fait que ça va probablement demander qu'on parte avec un agenda tout blanc et qu'on place nos priorités en fonction de notre intelligence qui a été renouvelée. Que nos priorités qu'on avait avant notre conversion ne sont plus reflétées ici. Que maintenant, les formes d'adoration qu'on voit fassent partie de notre agenda en premier lieu. Puis on va probablement avoir le temps d'ajouter d'autres choses qu'on faisait, ça peut être du sport ou d'autres choses, mais on priorise les choses de Dieu. Parce que notre intelligence ne fonctionne plus comme avant. Les choses qu'on aurait mis en premier dans notre agenda vont peut-être maintenant passer en deuxième, en troisième, en quatrième priorité. Parce qu'on ne fonctionne plus de la même façon. Donc, on est tous appelés à participer, comme on l'a dit, activement dans chacun de ces piliers-là. Soit par notre adoration ou par notre service. Si c'est le pilier dans lequel c'est notre don, ça va être notre service. Mais en passant, le service, c'est aussi une forme d'adoration. Comme on l'a vu, Paul, c'est la façon qu'il a réagi pour adorer Dieu. Il s'est offert, tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le faire. Puis Paul a consacré sa vie au Seigneur ensuite. Donc, le service aussi est une forme d'adoration, là, mais on est appelé de servir Dieu dans chacun de ces domaines-là, ou de l'adorer dans chacun de ces domaines-là. On ne peut pas se dérober à aucun de ces piliers-là. Comme juste par exemple, on pourrait dire, bon, on en a un qui parle de la mission ici, là. Évangélisation, mission. On dit, non, la mission, ça, c'est pas pour moi. Bon, probable que vous n'êtes pas appelé comme missionnaire. Mais qui n'est pas appelé à prier pour nos missionnaires? Qui n'est pas appelé à soutenir les missionnaires? Et pourquoi, comme Église, on ne serait pas appelé à former des gens qui, un jour, vont aller dans la mission? Donc, oui, comme enfant de Dieu, on est quand même appelé à avoir une forme d'adoration par rapport à la mission. Donc, si tous ces domaines-là, sans exception, ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et en plus, bien, dans un de ces piliers, on va être comme l'élément canalisateur, la personne qui va encourager, édifier le peuple, justement, dans ce domaine particulier où il est appelé. Mais ce matin, comme je l'ai dit, j'aimerais ça qu'on commence avec le pilier de la prière. Pourquoi je voulais commencer par lui? Bon, c'est pas le premier sur ma liste, là. Mais c'est parce que je pense que chaque ministère, chacun de ces piliers, ces façons, les endroits où on sert Dieu, doit se faire dans le contexte de la prière. Ça ne peut pas être dissocié. Par exemple, la personne qui est animatrice des classes d'enfants, l'école du dimanche, bien je crois, j'ai la ferme conviction qu'elle n'est pas appelée juste à enseigner les enfants. Cette personne-là est appelée aussi à prier pour les enfants qui sont dans sa classe. Ça fait partie de son ministère. Cette personne-là est appelée aussi à chercher la face de Dieu, la direction du Seigneur, la façon qu'elle va apporter sa leçon aux enfants. Elle doit s'appuyer sur le Seigneur. Donc, on ne peut pas dire parce qu'elle, son domaine, c'est plus l'enseignement ici, qu'elle, non, ce n'est pas la prière. Non, ça fait partie de son ministère. C'est pour ça que ce matin, je veux qu'on se concentre sur le pilier de la prière ensemble. Pourquoi? Parce que le jour où on se pense capable d'exercer un ministère sans l'intervention de l'Esprit de Dieu, eh bien, on est dans l'erreur. C'est l'essence même d'un don spirituel. On a besoin que l'Esprit nous utilise pour pouvoir servir Dieu dans ce domaine-là. C'est un don spirituel. Parce que le jour où on se sent capable tout seul, qu'on se sent à la hauteur pour remplir un ministère sans Dieu, sans l'intervention de Dieu, eh bien, il n'y a plus de place pour l'Esprit. Et on n'utilise plus notre don spirituel. Évidemment, on avait parlé aussi au verset 3, hein, revêtir des sentiments modestes. L'humilité doit être le contexte dans lequel on pratique nos dons. Et déjà, le fait de prier Dieu, de s'en remettre à Dieu avant d'exercer un ministère, de s'appuyer sur sa force à lui, sur ce que lui va nous souffler, la façon qu'il va nous utiliser, c'est déjà en soi une façon de reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de Dieu. Et ça se fait dans nos temps de prière personnelle. Juste de déclarer, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi pour prêcher ta parole avec puissance, pour que ça fasse une différence dans la vie des gens. Je ne veux pas juste aller en avant pour les divertir. Je ne veux pas juste les faire rire avec mes images. Je veux, Seigneur, que ça ait un impact dans leur vie. Puis ça, j'ai besoin que ce soit toi qui le fasse. Donc, peu importe ton ministère, je crois que ça doit se faire dans le contexte de la prière. C'est pour ça que je veux qu'on se concentre sur lui ce matin. Donc, entrons plus en détail dans le pilier de la prière. Puis regardons comment il est constitué. Premièrement, je veux qu'on regarde pourquoi l'Église a besoin du pilier de la prière. Pourquoi c'est si important, le pilier de la prière? Il va de soi que l'Église a des besoins multiples. Il y a plein de besoins dans l'Église, et ces besoins ne pourront jamais être comblés s'ils ne sont pas amenés à Dieu dans la prière au préalable, en faisant connaître nos besoins à Dieu. Comme Paul l'a dit dans Philippiens 4:6, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, voici deux principes très importants dans la prière. Premièrement, la prière, c'est un commandement. Hein, vous remarquez ici, c'est un impératif. Faites connaître. Pas ce serait bon de faire connaître. Oui, parfois, vous pouvez avoir besoin de faire connaître. Non, c'est un impératif. C'est un commandement. Faites connaître vos besoins à Dieu. On voit Paul encore dans 1 Thessaloniciens 5:7, prier sans cesse, encore un impératif. C'est un commandement que Paul nous donne. Et quand il parle à Timothée, un petit peu plus loin, dans 1 Timothée 2:1, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Encore. J'exhorte à faire des prières. C'est un commandement. Et ce n'est pas pour rien que la parole parle si souvent de la prière. Je pense que c'est quelque chose que naturellement, on va négliger. Souvent, on a l'impression de perdre notre temps lorsqu'on prie, alors qu'on fait le principal de notre ministère. Le principal, c'est de commencer dans la prière. Si on le fait dans la prière, on va voir Dieu agir au-devant de nous. Donc, dans ces quelques textes-là, mais combien d'autres? Hein? Ou encore Jésus. Jésus lui-même, vous rappelez, quand il est dans Gethsémané avec ses disciples, il donne encore un commandement à ses disciples. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Non, ce sera peut-être bon là, que vous commenciez à penser à prier. Non, non, veillez et priez. C'est encore un impératif que Jésus donne ici. Donc, c'est juste quelques-uns des textes, mais il y a énormément d'endroits dans les Écritures. On voit que la prière, c'est un commandement. Ce n'est même pas un choix. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui prie. Mais c'est aussi, deuxièmement, une nécessité. On a besoin de prier. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce contexte-là. Dans Marc 9, les disciples... il y a des personnes autour d'eux. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Mais on a voulu chasser un démon, puis on n'a pas été capable. Puis là, quand ils demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas été capables, Jésus leur répond, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Bon, on voit au verset 25, juste avant, c'est un esprit sourd et muet. Moi, je pense qu'il y a un lien là. Quand un esprit est sourd, quand tu as beau lui crier de sortir, il ne sortira pas, il ne t'entend pas. Je pense que c'est logique, là. Mais n'empêche que ça prenait la prière. Sans la prière, ils ne pouvaient pas bien jouer leur rôle. La prière était nécessaire pour jouer leur rôle le rôle qu'ils avaient à jouer comme apôtres à ce moment-là. Jacques aussi nous enseigne à quelques reprises, hein, il dit finalement, il dit, que bien que comme Église, on ait bien des besoins, ou comme personne, mais on ne possède pas pour deux raisons. Au verset 3, il dit parce qu'on demande mal, et au verset 2, il dit parce qu'on ne demande pas. Pas compliqué, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ou parce que vous demandez mal. Dieu est toujours capable de nous donner tout ce dont on a besoin. On n'aurait pas besoin de lui demander. Mais Dieu aime qu'on le lui demande. Dieu veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Parfois, qu'on vienne à lui, à genoux, en pleurant, puis lui dire, c'est quoi notre besoin? Puis Dieu va souvent même attendre qu'on le fasse avant de venir à notre secours. Parce que Dieu sait, comme être humain, que s'il fait juste nous donner tout ce qu'on a besoin, quand on parle de l'évangile de la prospérité, là, il va tout nous rendre riches, nous rendre en santé et tout, bien, il sait que comment est l'être humain. Il va devenir capricieux, puis la moindre chose qui va lui manquer, il va se mettre à piquer une crise ou à mal réagir. Dieu sait qu'on a besoin juste, Seigneur, je t'en supplie, j'ai besoin de telle chose. Tu vois, ma voiture vient de briser, je n'ai pas les sous. Pourvois, Seigneur, je t'en supplie, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, qu'on soit capable, dans tous les domaines de notre vie, de lui mentionner ce dont on a besoin. Puis Dieu va souvent retenir des bénédictions si on ne les lui adresse pas, pour qu'on apprenne à le faire parce que c'est trop important. Donc, la prière est commandée, c'est un commandement, puis la prière, c'est une nécessité. Dans chacune de nos vies, qui qu'on soit, la prière a une haute importance. Et souvent, comme Église, on se plaint qu'il ne se passe pas grand-chose. On regarde, puis on me semble qu'il ne se passe pas grand-chose dans la vie de l'Église. Puis savez-vous quoi? Bien, souvent, on a raison. Souvent, on a raison. Des fois, il ne se passe pas grand-chose. Savez-vous pourquoi? Quand on regarde dans l'histoire de l'Église au complet, et même dans les Écritures, les grands réveils, les moments où c'est vraiment passé des choses extraordinaires, comme le réveil qu'il y a eu dans Actes 2, 41, hein, le nombre des disciples a augmenté de 3000 âmes, toute une campagne d'évangélisation, hein, 3000 personnes se sont converties cette journée-là. Oh, mais Seigneur, pourquoi qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Ben, c'est simple, on n'a pas de place à les mettre. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Qu'est-ce qui a précédé ce grand réveil? Tous, d'un commun accord, persévéraient quoi? Dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Tous persévéraient dans la prière. Pendant plusieurs jours, ils priaient. Et c'est arrivé, 3000 âmes sont converties. Les disciples avaient été enseignés toute leur vie par Jésus lui-même sur l'importance de la prière. Les disciples croyaient à la pertinence de la prière. Ils ont prié Dieu et ont vu Dieu agir en avant d'eux. Ils ont vu des miracles se produire. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené ça devant Dieu, dans la prière au préalable. Frères et sœurs, je suis convaincu qu'aujourd'hui, au 21e siècle, la prière ne prend pas assez de place dans nos églises. Dans chacune de nos églises, nous avons oublié la puissance de la prière. On a oublié l'arme, la principale des enfants de Dieu, la prière. On essaie de faire par nos propres forces. On a besoin de se repentir comme Église, d'avouer à Dieu qu'on a négligé une si grande puissance. On a un bazooka entre les mains, qui est la prière, puis on est en train de d'aller à la guerre avec nos petits pistolets à eau. Là. Hein? Puis on pense qu'avec ça, je vais y arriver. Là. Non, c'est l'arme qui nous a donné une arme bien plus puissante que ça. On a besoin, comme Église, de supplier Dieu de nous accorder des âmes, de sauver des personnes, de nous donner des personnes qu'on va pouvoir former comme disciples pour accomplir notre mission comme Église, de faire des disciples. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi une âme que je vais pouvoir former, de laquelle je vais pouvoir faire un disciple. Sur cette base, frères et sœurs, moi, je suis convaincu. Bon, cette année, Noël va être bien différent. On aimerait peut-être ça avec être dans notre grande famille. On ne pourra pas aller dans la Beauce avec la famille de Suzy. On est triste de ça. C'est des belles occasions, souvent, de pouvoir parler du Seigneur. Mais savez-vous quoi? Je suis convaincu. Si on prend du temps à Noël pour prier pour nos familles, on va être bien plus efficace que si on va les voir puis on essaie de leur parler sans prier. On va voir l'Esprit de Dieu agir bien plus puissamment que si on va à nos fêtes de Noël puis on ne prie pas Dieu puis qu'on essaie de pluguer hein, l'Évangile à travers cette situation-là. Donc, le fait qu'on ne sera pas réunis n'empêche pas que l'Esprit porte tout un impact dans leur vie. Peut-être justement qui se pose la question, c'est quoi le vrai sens de Noël? C'est même pas les réunions de famille. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est ça, le vrai sens de la fête de Noël. Pourquoi qu'on ne demanderait pas au Seigneur, chacun dans nos foyers? Seigneur, fais comprendre ça à ma famille. Un enfant qui s'est éloigné, Seigneur, que cette situation-là puisse lui donner le temps de réfléchir. Réfléchir à toi. Si on est en train, comme l'Église, on est en train de tomber à genoux, frères et sœurs, on va se réjouir. On va pouvoir se réjouir ensemble de ce que Dieu va avoir accompli. Peut-être même sans notre présence. On l'a vu un moment donné avec notre fils qui s'éloignait du Seigneur puis qui était parti au BC. Puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tout ce qui nous reste, c'est la prière. Non. Il nous reste la principale chose, la prière. Hein? Donc on a prié pour Mathieu. Il nous appelle un matin, il dit, là, je me suis rendu compte que la vie n'a pas de sens sans Dieu, je vais me faire baptiser aujourd'hui au BC. Mais Dieu avait agi. Aujourd'hui, il a pris des chemins détournés, mais c'est juste pour dire, la puissance de la prière, on n'avait pas besoin d'être là. Dieu était là pour agir, et on a vu que la principale chose qu'on pouvait faire, c'était de prier. Donc, ça c'était au niveau pourquoi on a besoin de la prière. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce que ça comprend, le pilier de la prière? Je veux qu'on le fasse pour chacun. La prière, c'est moins large, mais quand on va arriver dans certains des piliers, je veux qu'on parle plus qu'est-ce que ça comprend, ce pilier-là. Mais dans le cas du pilier de la prière, je dirais que ça l'englobe à la fois la prière et le jeûne. On peut mettre ces deux choses-là qui, souvent, ne peuvent pas être dissociées. Donc, le pilier de la prière comprend la prière et le jeûne. Ces deux façons d'adorer Dieu, ça peut se pratiquer individuellement, ça peut se pratiquer en petits groupes, des groupes maison ou des groupes de prière, ça peut se pratiquer en famille, ça peut se pratiquer en grande assemblée. Mais aussi, il existe des moments précis où on va particulièrement prier, mais il existe aussi ce qu'on appelle une vie de prière. Vous vous rappelez le texte de tantôt de 1 Thessaloniciens 5-7, prier sans cesse, comment ça peut se faire? Il ne faut pas toujours être dans ma chambre à jouer au pied de mon lit comme le petit garçon, puis prier Dieu. Il ne faut pas faire ça, il faut que je bouge un petit peu, là. À un moment donné, je vais devenir ankylosé, là. Je vais commencer à... ça ne sera pas drôle que je commence à faire de la bédaine. Mais non, c'est une vie de prière. Un peu comme l'illustration de notre moine tantôt. Hein? La première réaction, un petit cadeau sur la tête, puis hey, merci Seigneur, tu n'as pas donné d'aile aux vaches. Mais c'est un petit peu, c'est de façon humoristique, mais qu'on ait toujours cette attitude. Tout ce qu'on vit, c'est d'avoir le premier réflexe, oh, cette dame-là a l'air vraiment mal en point. Seigneur, intervient pour cette femme-là. Puis on est juste passé en voiture dans la rue, puis on l'a vu, là. Mais que ce soit une vie de prière. Peu importe ce qu'on fait, on est en train de travailler, on est en train de manger, conduire, qu'on soit en train de prier, d'adorer Dieu, de louer Dieu. C'est ça, prier sans cesse, c'est ce que ça veut dire. Donc, les enfants de Dieu, ont aussi besoin d'être enseignés, je crois, sur la pertinence, l'importance de la prière. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tant de versets dans les Écritures qui nous parlent de la prière. On a besoin, oui, en lisant la parole, que la parole nous enseigne là-dessus, mais je pense qu'on a besoin régulièrement de venir en avant pour enseigner. Puis plus que ça, si tes dons sont plus au niveau de la prière, dons de foi, probablement que tu as un rôle à jouer dans l'Église, pour enseigner l'Église. Peut-être que l'Église a besoin d'entendre que toi, tu as prié pour telle chose, comment Dieu a répondu, puis comment ça peut te réjouir. Puis que les autres puis se disent, hey, ben, c'est vrai, je n'avais pas pensé, j'ai vécu quelque chose de similaire, puis je n'ai pas pensé à prier. C'est ça qu'on parle quand on parle de dons spirituels. C'est pas juste de le pratiquer, c'est d'avoir une influence pour édifier le corps de Christ autour de nous. Donc ça, c'est ce que comprend le pilier de la prière. Maintenant, quelles sont les opportunités? Quels sont les rêves qui sont relatifs à ce pilier-là de la prière? Donc, de quoi pourrait être composé notre pilier? Ce serait quoi les briques qu'on pourrait mettre? Donc déjà, il y a plusieurs briques qui sont déjà là en place dans l'Église. Je vais commencer par celle-là. La première, bien, notre sœur Josée souvent nous envoie des requêtes de prière. Cette semaine, elle nous a envoyé la requête pour notre sœur Anne. Après, on dit, bien, on a une autre lettre qui nous dit, OK, merci au Seigneur, l'opération a bien été, continuons à prier pour pas qu'il y ait d'infection ou de rejet par rapport à ça. Donc, c'est un bel outil qu'on a. Est-ce qu'on l'utilise? Ce qu'on fait, moi, je le classe dans mon dossier requête, je fais juste le prendre et le mettre là, puis je l'oublie. Ou est-ce que je prie vraiment pour ces requêtes-là? Donc, c'est déjà un bel outil qui est déjà en place dans l'Église. Ouais, je prie, mais je ne sais pas trop pourquoi prier. Bien, déjà, on a un bel outil là. Un deuxième outil qu'on a dans l'Église, c'est les groupes maison. Les groupes maison, une des activités qu'on fait, c'est de partager les fardeaux les uns aux autres, de prier les uns pour les autres, de prier ensemble. Donc, c'est un bel outil qu'on a, les groupes maison, pour, entre autres, où on étudie la parole, mais aussi, on a des temps de prière. Quand je me suis converti, c'était des réunions de prière qu'on appelait ça. C'est des groupes maison, à Granby, c'est des cellules, mais il y a toujours une place pour la prière, pour prier les uns pour les autres, partager les fardeaux les uns des autres. Un troisième outil qu'on a déjà dans l'Église, c'est la prière en grande assemblée. On l'a fait encore ce matin, pratiquement chaque semaine. On a des temps de louange, de prière, de requête qu'on peut apporter ensemble en grande assemblée. Donc déjà, on a quelques éléments du pilier. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme opportunité en plus de ça? Il y a quelques mois, en 2019, je crois, Richard Roule était venu. Et nous avait présenté le mouvement de prière 24-7. Hein? Et c'est un regroupement qui prie directement pour un réveil parmi les franco-canadiens. Bon, le Québec, mais les franco-canadiens en général. Et on a une liste de 24 requêtes desquelles on prie une heure par semaine, à chaque semaine. On a 24 requêtes. Chaque participant a notre heure dans la journée qu'on a choisie. Et tout un outil pour prier, pour supplier Dieu pour ce réveil dont les franco-canadiens ont tellement besoin. Donc, c'est encore là. On peut s'inscrire sur le site si vous avez besoin de détails. On pourra vous en donner. Moi, Suzy, on pourra vous donner des informations si vous voulez vous inscrire. Des petits groupes de prières spontanées. Il y a un besoin particulier. Hey, si tu en penses, on prend-tu un temps, on va aller dans une classe, on va aller prendre un café, on va prier ensemble pour ce domaine-là. Donc, ça peut être un besoin spécifique. Ça peut être aussi pour une activité qui s'en vient, comme là, le char allégorique. Hey, on a chair allégorique. Viens, on va prier ensemble pour cet événement-là. Des vies de prière. Ça existe. Hein? Des fois, on a des annonces. Il y a un temps de prière à l'église du plateau. On va avoir un temps de prière pour telle situation. Donc, on peut se joindre. On l'a fait l'an passé. Il y avait eu un bille de prière, une soirée. Je pense qu'il n'y en a pas eu cette année, mais à cause de la COVID, c'était plus compliqué, là. Mais on l'a eu en 2019. En lien aussi avec les requêtes du 24-7, mais c'était quand même un bille de prière régional. Il existe aussi des ralliements de prière occasionnels avec l'association ou plus régional, mais des ralliements auxquels on peut participer. Ah oui, celui-là, je voulais vous en parler. On a ça à chaque mois. C'est un petit signet du fellowship, donc de l'association, notre association d'église. Et c'est des requêtes par rapport à l'évangélisation locale et à l'étranger. Donc, à chaque jour, on a une requête, soit pour des ministères locaux, au Québec ou au Canada, ou à l'étranger, des missionnaires. Donc, ça, si jamais vous le voulez, je pourrais vous le laisser disponible, on pourrait en faire des copies. Donc, à chaque jour, vous avez une requête, c'est pas très long, ça peut prendre une minute ou deux à prier. On a une requête pour la mission, l'évangélisation et la mission. Donc, ça, c'est un outil qu'on a, qui est bien monté aussi. Ensuite, Carmen, mission, OK. Mais Carmen, souvent, nous envoie des lettres missionnaires. Et à chaque fois qu'on a une lettre missionnaire, il y a des requêtes pour prier pour nos missionnaires. Donc, pourquoi pas les utiliser, ces idées de prière-là? On connaît un besoin, on prie pour le besoin, pour le frère, pour la sœur. Donc, c'est un outil qu'on a déjà dans notre Église, mais qu'on l'utilise. Et dimanche matin, je pense que c'est vraiment un besoin. On aurait besoin d'une équipe d'intercession le dimanche matin. On pourrait dire, hey, on se donne rendez-vous à 9h30, on prie pour la rencontre qui s'en vient. Peut-être une personne, deux, trois, quatre personnes, on va dans une classe, on prend un temps de prière, peut-être 15 minutes, 20 minutes avant la rencontre. On aurait besoin de ça. On verrait toute une différence dans nos rencontres, dans l'effet que ça pourrait avoir dans les vies des personnes même. Mais ce n'est pas tout. Il y a une panoplie de possibilités juste dans le pilier de la prière, dans le domaine de la prière. Et si tu es particulièrement appelé et doué, que Dieu t'appelle à avoir un ministère au sein de la prière, je pense que tu es vraiment la personne qui pourrait nous en nommer. De ces belles opportunités qu'on pourrait avoir pour que la prière redevienne centrale dans notre Église. Notre Église a besoin d'avoir une armée d'intercesseurs à genoux qui se lèvent pour notre Seigneur. Je fais volontairement le jeu de mots, mais une armée à genoux qui va se lever pour son Seigneur. Parce que quand on est à genoux, on est en train de se lever pour notre Seigneur, pour la bataille, d'avoir un rôle important dans l'armée de Dieu. Il existe tellement de possibilités, frères et sœurs. Si vous pensez que la vie chrétienne est plate, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter à toutes ces possibilités qui sont devant nous. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Présentement, on a juste regardé ce matin, bon, le pilier de la prière et le fondement du service, de ces six piliers-là dans l'Église. Il en reste cinq autres. Je vous garantis, ça va être probablement du même ordre. Comment il y a des possibilités devant nous? C'est pas croyable, frères et sœurs, comment on n'a pas de raison de s'ennuyer dans la vie chrétienne. Donc, évidemment, on va passer aussi par le domaine de, l'autorité des parents, probablement plus en début d'année. Puis on va, dans les prochaines semaines, regarder chacun de ces piliers-là. Évidemment, on va faire une petite parenthèse pour Noël. On va avoir un thème approprié. Mais pendant que nous allons faire ça, comme là on a fait un premier pilier, il est possible que toi, le Seigneur particulièrement, allume quelque chose dans ton cœur. Une flamme se met à brûler. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai vraiment ça à cœur. Mais si c'est le cas, viens me voir ou va voir le responsable de ce ministère-là. S'il y a un responsable, puis parle-nous-en. Il y a une place pour toi dans l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario. Et un de mes objectifs en faisant cet exercice, c'est que tu puisses allumer et dire, « Ah oui, ça là, moi, j'ai particulièrement ça à cœur. » Donc, non seulement je vais participer en priant moi-même, mais je pense que j'ai un rôle à jouer pour amener mes frères et sœurs dans la prière aussi, pour les encourager. Puis comme on a dit, il y a tout un rôle aussi. Donc, si c'est le cas, fais-le connaître pendant que c'est frais dans ton cœur. Viens nous en parler. Mais pour le moment, si c'est ton cas, si tu as négligé la puissance de la prière, si tu as oublié cette partie-là de l'épée, de l'armure qui est si importante hein, pour te défendre, eh bien, premièrement, repens-toi. Dis à Dieu que tu lui demandes pardon d'avoir négligé un élément si important dans son Église. Et reprends ta place d'intercesseur dans le corps de Christ. Dieu se cherche une armée qui va se lever pour lutter à genoux pour le royaume de Dieu. Prions. Eh bien oui, Seigneur, certainement comme Église, je suis convaincu qu'on a te demandé pardon. Seigneur, pardon parce que tu nous as laissé une arme si puissante que la prière. Seigneur, parce que pour celui qui tombe à genoux, celui qui te prie, rien n'est impossible, Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui l'accomplis quand on tombe à genoux. C'est toi qui l'accomplis au-devant de nous. Et par ça, Seigneur, dans ta grâce, parfois tu vas même nous utiliser pour l'accomplir. Ah oui, Seigneur Dieu, certainement on te demande pardon d'avoir négligé ça. Et ma prière, c'est que cette Église puisse être reconnue comme une maison de prière. Comme tu le dis toi-même, Seigneur, quand tu as fait des reproches au peuple d'Israël. Cette maison, c'est supposé être appelée une maison de prière et qu'ils en avaient fait une caverne de voleurs. Eh bien, je te prie que ce ne soit pas notre cas, Seigneur, que la prière puisse être vraiment l'élément central qui va diriger cette Église pour que, Seigneur, on puisse avoir une Église vivante, avoir une Église puissante, Seigneur, une Église qui va faire toute la différence et, Seigneur, qu'on va pouvoir être juste émerveillé devant ta puissance, devant la façon que tu vas avoir répondu. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.